started. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
Des millions. Des millions, vous êtes charmant, mais.
The name's Bond. James Bond.
Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices. Bienvenue dans un nouveau Thème Ciné. Je suis toujours en compagnie de Lucas. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Et de Melvin. Bonjour Melvin.
Bonjour tout le monde.
Ainsi que d'un nouvel invité qui s'appelle La Maladie. Donc si vous m'entendez parler du nez, allez vous plaindre à l'hiver. Bref. Dans ce nouveau Thème Ciné, nous allons vous parler d'un genre assez, assez récent néanmoins qui s'appelle les road trips. Alors, les gars, je vais vous poser cette fameuse question. Pour vous, les road trips, qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce qu'on peut dire des road trips ? C'est pas un genre cinématographique, je pense, mais une catégorie qui est souvent quand même reléguée au second plan, mais qui, quand elle est mise au premier plan, quand c'est vraiment le centre du film, ça peut donner des choses assez intéressantes. Voilà, après la base, c'est un ou plusieurs personnages qui vont devoir se rendre dans une destination, dans le même pays ou dans un autre pays par exemple, et on filme ce qui se passe entre temps et on filme le trajet et ça fait un film de road trip.
Et c'est un genre qui, comme tu dis, c'est pas un genre en lui-même, ça se marie très bien avec la plupart des genres, faire des road trips science-fiction, des road trips comédie, des road trips horreur, des road movies de tout genre.
C'est ça, il n'y a jamais de film 100% road trip. C'est toujours une sous-catégorie. Ouais, c'est ça. Après, le terme de road trip, ça apparaît plus dans les années, à la fin des années 60, avec le film culte qui est Easy Rider, en 1969. Ça va avec cette idée du nouvel Hollywood, et en plus Easy Rider, ça, c'est avec une tendance aux idéaux un peu hippies, c'est la liberté de l'homme sur les grandes routes. Donc il y a toujours dans ces films là une espèce de recherche de liberté ou de nouveauté à chaque fois.
Oui, voilà, après c'est vrai que bon, alors je vais être honnête, vu que j'y connaissais pas grand chose avant l'émission, j'ai quand même fait des recherches. Alors il y en a qui considèrent que ça a quand même démarré avant, j'ai vu avec certains films comme Pierrot le Fou ou New York Miami de Frank Capra, mais bon, après j'ai quand même lu que, on va dire, ce que je viens de citer, on va dire que certains considèrent que c'est des précurseurs du genre, mais vraiment le premier film de road trip, ouais, c'est Easy Rider, comme tu l'as dit.
Disons que c'est le premier film où le terme est apparu, parce que sinon, si on fait des recherches antérieures, il existe d'autres road trips, c'est juste que le terme n'avait pas été inventé. Je pense au Magicien d'Oz de 1939, le premier grand film en couleur, et ou alors au Raisin de la colère, qui est vraiment bien, bon, qui est évidemment beaucoup plus court que le bouquin, mais que je recommande chaudement. Donc voilà, si on cherche un peu aussi, c'est quand même un peu plus vieux que ça.
Après, ça a eu ses heures de gloire avec Mad Max, donc ça a quand même beaucoup boosté le genre, et ça a eu quelques vagues par-ci par-là. Ça a eu quand même pas mal dans les années 80, alors moins dans les années 90, et c'est revenu après, années 2000-2010, il y en a de temps en temps.
Ah, tu dis ça plus avec le dernier Mad Max, parce que si on prend les trois premiers Mad Max, c'est pas forcément des road movies.
Ou le 1, si. Hein. Il bouge.
Oui, non, mais il bouge, mais il reste dans le même endroit. Chaque fois, c'est dans la même zone désertique. C'est pas
Oui, mais alors après, si tu dis ça, Fury Road reste à peu près dans la même zone aussi au final.
Pour moi, Mad Max, c'est un road movie en tout cas.
Non, parce que Fury Road, ils vont jusqu'à un point défini, mais au moment où ils y arrivent, ils décident de faire demi-tour.
Donc, oui, oui. Mais
c'est pas, alors que...
Ouais,
alors
ils tournent pas en rond.
C'est ça, alors que le premier Mad Max, c'est des courses-poursuites en voiture, en moto, mais toujours dans la même zone. On revient au même commissariat, on recroise les mêmes persos, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de recherche de liberté, il n'y a pas de cette recherche de nouveauté.
Oh, oui, vu comme ça, ok. Bah alors, je change pour Thelma et Louise.
J'ai pas vu, mais oui, ça c'est un road trip.
Ouais, c'est vrai qu'après le terme de road movie, ça a vraiment. En fait, d'après ce que j'ai lu, ça a été sorti, ça a été inventé juste après la sortie d'Easy Rider. Donc c'est vraiment. Alors que malheureusement, j'ai pas vu. Mais c'est vraiment un genre qui existe depuis quand même un petit moment, mais qui a pas eu qui a eu son heure de gloire, mais bon, c'est, on va dire que ça reste pas mal des sous-catégories de films. Et du coup, en faisant les recherches pour choisir un film de road trip, en fait, au final, on se rend compte que le road trip, c'est quand même une sous-catégorie de plein de films qu'on connaît. Et c'est vraiment quand les voyant ou quand recherchant le terme de road trip, qu'on tombe sur des films. Ah oui, c'est vrai, merde, mais en fait, au final, dans ce film-là, ils font un voyage où ils vont d'un point A à un point B, et du coup, ça passe vite en film de road trip au final.
Mais il suffit de prendre les films dont on a déjà parlé dans d'autres émissions, les Blues Brothers, Paul, tout ça, c'est des road trips.
Oui, c'est ça. Après, je sais pas du coup si on peut dire qu'il y a eu une heure de gloire des road trips, tu vois, parce que c'est tellement une sous-catégorie, et même on y pense après, on peut pas vraiment dire que ça a eu une heure de gloire. On peut dire qu'il y a des bons films de road trip, mais est-ce qu'il y a vraiment eu une heure de gloire tellement le genre est éparpillé? Plus difficile à dire.
Non, il y a eu, ouais, c'est ça, il y a eu des films qui ont eu du succès, mais pas en étant considérés comme des vrais road movies, quoi. C'est comme on l'a dit à peu près 130 fois depuis le début de l'émission, je pense, mais c'est des sous-catégories de ces films. Et au final, au fur et à mesure du temps, il y a eu certains films qui ont eu beaucoup de succès, et au final, ça rentrait pas dans la catégorie du road movie, sauf vraiment les films qui ont que ça dans leur film, on va dire. Mais voilà, ça reste des films célèbres pour autre chose que le road trip dedans, quoi.
Et d'ailleurs, mis à part ça, est-ce que vous avez, c'est quoi vous vos références en termes de road trip?
Alors moi, j'aime beaucoup The Darjeeling Limited de Wes Anderson, qui est pour le coup un road movie de train.
Pas vu.
Et c'est peut-être mon préféré d'Anderson. Et après, des plus comiques avec Bienvenue à Zombieland, Retour à Zombieland, les deux fonctionnent en road trip. Et voilà. Et les Tarantino avec Boulevard de la Mort et Une Nuit en Enfer.
Je viens d'y penser, là. Alors, je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais Le Crime de l'Orient Express, on peut quand même le considérer.
Et non.
Pourquoi?
Ah, parce que c'est le train statique.
Ouais.
Ils sont bloqués par un amas de neige.
Oui, alors oui, au départ, c'est vrai. Enfin, à la fin, oui.
Enfin, de road trip, il est sur littéralement le quart d'heure du début et après c'est fini.
Ouais, c'est vrai, j'avais zappé ça.
Comment ça, spoil?
Alors, après, moi, pour mes références, Fury Road, en vrai, Mad Max Fury Road.
Un classique incontestable que je regrette de ne pas avoir vu sur grand écran.
Qui a été, que j'ai découvert sur mon petit écran d'ordinateur, donc c'est quand même un petit regret, il faudrait quand même que je le revoie.
Je suis le seul à avoir vu au ciné, en 3D.
Et
incroyable 3D.
Ah ouais?
Ah ouais, si vous devez le voir, bon, si c'est possible de le voir en 3D, la 3D est très bonne.
Mais pour une fois, on va pas, faudrait pas s'en priver.
La version noire et blanche est pas mal aussi.
Et donc quoi, ouais, Mad Max Fury Road qui a quand même été une grosse claque quand je l'ai découvert. Ensuite, le film que j'ai choisi aujourd'hui, donc vous le verrez après. Je rejoins Melvin sur Zombieland, qui est quand même assez marrant, franchement, c'est quand même... un bon petit film à découvrir, c'est quand même bien sympa.
Et le meilleur de son réal. Je vous rappelle que le mec a fait Venom.
Ah oui, c'est vrai. Oui, donc, regardez Zombieland plutôt.
Faut pas dire j'aime pas, faut dire que t'es pas le public, c'est pas pareil.
Et ensuite, j'allais citer Paul, mais on en a déjà parlé dans une autre émission. Après, c'est pas vraiment
mais des. Tu peux le re-recommander. Hein,
oui, c'est... oui, bon, mais Paul, donc, on avait parlé dans. Je sais plus.
Sur les extraterrestres, il me semble.
Les monstres.
Ah, c'était dans les monstres?
Bah, on n'a pas fait les extraterrestres.
J'ai choisi Pacific Rim dans les monstres.
Ah ouais.
Je sais plus. Bref. Donc, on va pas y passer la nuit. Donc, c'est Paul, Mad Max Fury Road et le film que je vais faire découvrir après. Et je crois que c'est bon. Ça suffit.
Bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est des bons films, hein. Alors moi, évidemment, moi aussi, j'ai Mad Max Fury Road qui est toujours une claque, hein, même après sa sortie en 2015, il est franchement super. Mais personnellement, moi, j'ai Rain Man de Barry Levinson, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non.
Non.
Où c'est Tom Cruise qui va faire un road trip avec son frère caché autiste et qui va apprendre à le connaître. Vraiment très beau film, assez émouvant.
Mais j'en ai entendu parler, je crois. Maintenant, Dustin
Hoffman, c'est ça?
Oui, c'est lui qui joue l'autiste. Et vraiment un film qui est très émouvant, très bien réalisé, que je recommande chaudement. Après, Il y en a un autre bon, que j'ai vu très récemment aussi, mais que je considère comme un road trip, c'est Duel de Spielberg. C'est une sorte de road trip où, bon, là, c'est pas la libération de l'âme et changer de vie, c'est plus se libérer d'un tueur au camion fou. Mais ça fonctionne.
Oui, c'est vrai qu'il faut vraiment. Enfin, faut citer aussi des films qui sortent du genre passe après. C'est vraiment le road movie typique. C'est vraiment aller d'un point A à un point B en voiture ou en véhicule. Donc c'est vrai que de citer aussi des films qui sortent un peu du genre, ça peut être sympa.
Mais c'est, t'inquiète, hein, parce que mon autre référence, c'est L'âge de glace. C'est le premier, L'âge de glace.
De fou.
C'est vrai, mais même tous, parce que le 1, le 2 et le 3 fonctionnent. Ouais. Le 4 aussi.
Cela n'existe pas. C'est une construction de votre imaginaire. Il n'y a qu'un seul L'âge de glace.
Le 2 est incroyable.
Le 3, les dinosaures.
Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez.
Mais t'es malade, mon gars. Non, le 2 est incroyable.
Même le 3.
Écoutez,
on fera une émission L'âge de glace un jour. On débattra.
Votre imaginaire est corrompu. Il n'y en a qu'un seul. Il ne peut en rester qu'un et c'est le premier, tout simplement.
Non, mais je refuse ça. Je refuse ça catégoriquement.
Écoute, on se mettra sur la gueule à la pause et ensuite on verra.
Mais du coup,
L'âge de glace qui est un film d'animation absolument extraordinaire que je défendrai jusqu'à ma mort parce que je trouve qu'il n'a pas tant vieilli que ça.
Ça fait longtemps que je l'ai pas revu, mais non.
Les graphismes, le dessin de L'âge de glace, il ne me choque pas.
Non,
me choque pas.
Tous les films de l'époque, Shrek, c'est pareil, ça n'a pas vieilli.
C'est ça, Shrek, ça a extrêmement
mais
bien
vieilli. Mais DreamWorks en général, hein, ça.
Ah, mais comme L'âge de glace, c'est pas DreamWorks.
C'est qui DreamWorks?
C'est Blue Sky.
Oui. Ah, c'est vrai.
Blue Sky, ils ont toujours fait du très très bon boulot en termes de.
Alors Shrek,
de
c'est DreamWorks par contre.
Oui.
Ok, d'accord.
C'est ça. Mais donc, voilà, si jamais vous avez des enfants, bon, déjà, on est désolé pour vous, mais surtout, on vous le recommande chaudement, bien sûr, parce que ça fait partie de ces films pour enfants qui sont extrêmement bien réalisés et très intelligents. Donc voilà, en termes de référence.
Ouais, mais c'est vrai qu'après, on peut pas trop citer des films dans la trame principale et le fait de voyager, enfin, de faire un road trip. Donc, moi, ça a quand même été un peu chaud de choisir des références parce que c'est quand même assez dur de trouver des films de très très bonne qualité dont le truc principal est de faire un road trip. Mais
alors il y a Las Vegas Parano où c'est vraiment le truc principal,
ouais.
Et Little Miss Sunshine aussi,
ouais.
Où c'est vraiment le but du film.
Alors Little Miss Sunshine, ouais, je l'avais vu, bon, c'était, j'ai peut-être un peu trop jeune, mais je l'avais trouvé très cringe. En même temps, c'est peut-être
c'est le but.
Mais aussi, il y a le boulet. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Oui, c'est incroyable, ça.
Le boulet. Que là aussi, j'ai vu trop jeune. C'est parce vrai, que la scène des piranhas m'avait absolument terrifié quand j'étais petit.
Tu me ressors des trucs, mais c'est vrai que j'avais complètement zappé. Et ça, je l'aurais clairement mis en référence. Le boulet, c'est trop, trop bien.
Mais tous ces films, en fait, sont des road trips. La chèvre s'en est, hein.
Oui,
à ce moment-là. En fait, c'est les tous ces films-là. Aussi. Oui, voilà.
Après, mais c'est vrai que le boulet, ça rentre bien quand même. Parce qu'ils font quand même une grosse partie de... Du film en voiture de Dakar, donc c'est quand même, c'est vrai ça.
Puis... Et alors il y a ça, alors ça c'est un film dont je n'ai plus j'ai plus le titre en tête, mais l'histoire c'est quelqu'un qui va, je crois, au Népal ou en Asie pour se soigner d'une maladie qu'il pense incurable parce que il a entendu parce qu'il a entendu son médecin parler de lui en mode à mon sang il va bientôt mourir, je sais pas ce qu'on va faire. En fait, quand il est au Népal, il se rend compte que son docteur ne parlait pas de lui mais de sa plante. Ça vous dit rien ou pas?
Ah non, c'est
ça me dit un truc, mais je...
Non, c'est pas Morbius.
Morbius. N'importe quoi. Et ça me dit un truc, oui.
Vous voyez que vos âmes sont corrompues. Vous me citez Strange et Morbius. Mais ça vous titille un
truc. Ça me dit un truc, oui, mais voilà, je crois que je l'ai pas vu.
Je pense qu'on a fait à peu près le tour des références et du genre cinématographique qui était le road trip.
Ouais, on a bien
voilà, fait. On a cité plein de films, hein, n'hésitez pas à piocher, hein, vous pouvez avoir confiance dans normalement quasiment tous les films qu'on a cités.
Sauf Morbus.
Non, regardez
ça. Ce n'est pas un road trip, arrêtez avec ça.
Je sais pas, il fait un petit voyage quand même.
Un voyage donc, au bout de l'enfer, c'est pareil.
Que je propose de passer à la petite pause musicale, et du coup... Je vous laisse en compagnie de Steppenwolf et de leur tube Born to be Wild. Mmh.
racing with the wind. And I feel that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen.
Encore une fois, et ben c'est le moment de passer à la présentation donc de trois films, pas chacun mais en tout, qui nous ont marqué, qui font partie du style ou du genre road movie. Et donc évidemment, on vous prévient, ça va un peu spoiler, donc voilà, vous êtes prévenus. Alors je vais commencer comme d'habitude parce que c'est toujours moi qui ai les films les plus vieux, même quand mon film date des années 2000. Et il s'agit de Oh Brother, des frères Joel et Ethan Coen, donc réalisateurs et scénaristes de renom et de génie, vu que c'est eux qui signent la réalisation et le scénario à chaque fois de Arizona Junior, que je vous recommande vivement, qui c'est absolument génial avec
incroyable.
Un Nicolas Cage aux anges. Barton Fink, qui a un excellent film sur le fait d'écrire et sur la page blanche. Fargo, aussi très bonne enquête policière. The Big Lebowski, bien sûr.
J'adore.
Et évidemment, No Country for Old Men.
Ah oui, c'est vrai que c'est incroyable, No Country for Old Men.
Je suis moins fan, mais je reconnais tout le talent derrière. Et juste comme ça, Joel Cohen, c'est le monteur de Evil Dead. Voilà. Donc, O Brother, qu'est-ce que ça raconte? C'est trois prisonniers, Ulysse, Pete et Delmar, qui vont s'échapper ensemble d'une prison. Et qui vont essayer de retrouver le trésor d'un braquage mené par Ulysse, braquage d'un fourgon blindé, et ils vont essayer de retrouver le magot tout en échappant à la police qui les traque. En gros, c'est ça. Hein. Dans ce film, nous retrouvons trois acteurs au sommet, avec évidemment George Clooney, qui s'est fait connaître avec la série Urgence de 1994 à 2002. Qui dans ce film joue le rôle d'Ulysse Everett McGill. Son premier film, le premier film dans lequel il apparaît et qui est un peu connu, c'est Le Retour des Tomates Tueuses. Bon, en 88, faut bien commencer quelque part. Hein. Il a joué évidemment dans l'excellent Batman et Robin en 97. c'est lui
qui bat des tons.
Et oui, c'est lui qui fait la voix en version originale du docteur dans South Park, le film, celui qui remplace le cœur par une patate chaude. Il a joué dans la série des Spy Kids, dans les Oceans, donc Oceans 12, Oceans 11, évidemment. C'est lui qui fait Mr. Fox dans Fantastic Mr. Fox aussi. Et évidemment, Gravity. Voilà, c'est son...
Je me rappelais pas qu'il était dans Spy Kids.
C'est, bah, si, si.
C'est très longtemps que je ne les ai pas vus.
Il n'a pas un rôle majeur, mais il est comme ça, là, en second rôle. C'est pas mal. Nous retrouvons aussi Tim Black Nelson, qui joue le rôle de Delmar O'Donnell, qui a notamment joué dans des grands films comme La Ligne Rouge, Minority Report, Scooby-Doo 2, L'Incroyable Hulk, Les 4 Fantastiques, dans le futur Captain America aussi, et dans le dernier film de Guillermo del Toro, Pinocchio.
L'Incroyable Hulk, il joue Mr. Blue, non ?
Non, il fait le leader, qui revient donc dans Captain America.
D'accord, ok.
D'où le fait qu'il joue dans Captain America 2024.
Voilà.
Super.
Et enfin, nous retrouvons John Turturro, qui joue le rôle de Pete, et qui, lui, bon, il a juste commencé dans un film de Martin Scorsese qui s'appelle Raging Bull. Voilà, c'est quand même pas mal comme début de carrière. Hein. Le retour des tomates tueuses, Raging Bull, bon.
Ouais, il y a
un prestige en plus.
Au final, ils sont au même endroit, mais il y a quand même une différence.
Qui joue Barton Fink dans le film du même nom aussi. Le célèbre rôle de Rezus dans The Big Lebowski.
Sûrement son meilleur rôle. Hein.
Celui où il se palpe la boule de bowling, attention. Ouais.
Non mais même il est en roue libre, c'est extraordinaire.
Mais toujours, ça, je l'adore.
On le voit 10 minutes à tout casser, meilleur rôle.
Il joue aussi dans tous les Transformers du coup, avec le rôle de l'agent Seymour Simmons.
Pas tous.
Si.
Grand débat.
Et enfin, dernièrement, on a pu le voir dans The Batman, dans le rôle de Carmine Falcone. Et lui aussi, il est dans le Pinocchio de Guillermo del Toro.
Il joue pas trop mal d'ailleurs, Carmine Falcone. Je le trouve assez charismatique dans The Batman.
Oui, il est
bon. C'est
hein.
Pas mal.
Il est moins en roue libre, on va dire. Il a plus un rôle sérieux comme il avait dans Barton Fink.
Mais il a été bien dirigé. Il a beaucoup de charisme dans le film, j'ai bien aimé. On le voit pas mal en plus.
Et donc, si j'ai choisi ce film, c'est que, évidemment, en plus de répondre à la thématique, c'est un de mes films absolument favoris. C'est tout simplement le premier film des frères Coen que j'ai vu. Et c'est ça, par contre, je peux le dire, c'est le film qui m'a fait aimer le cinéma. Tout simplement parce que le jeu d'acteur absolument théâtral de ces trois-là me faisait toujours mourir de rire. L'histoire était incroyable. Donc c'est une de mes plus grandes recommandations à travers toutes ces émissions, c'est si vous l'avez pas vu, de voir Oh Brother. C'est certes pas le meilleur des frères Coen, mais un de mes préférés. Et du coup, vous les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Alors moi, je l'ai vu un petit moment pour rattraper la filmographie des frères Coen, vu que j'adore The Big Lebowski, et j'aime bien le film. Mais je trouve quand même qu'il a quelques longueurs. Je m'ennuie un peu sur la fin quand même, il se passe pas non plus énormément de trucs, mais après c'est très bien réalisé, c'est très bien mis en scène, la photo est super belle, les acteurs sont top et ça chante un peu, ça c'est cool.
Les musiques sont trop cool.
Les musiques sont incroyables. Et on t'a pas parlé au mon casting, il y a John Goodman, je suis absolument fan de ce mec, il a encore un rôle de fou furieux.
Oui, évidemment. Et bon, c'est tout le monde connaît un peu ça, quoi, mais c'est des grosses références à l'Odyssée, bien sûr. L'Odyssée, déjà, parce que le personnage principal s'appelle Ulysse. Il croise les sirènes. Il croise un cyclope vendeur de Bible.
Ah oui, c'est vrai.
On s'est fait tabasser par un marchand de Bible.
Mais tout est réfléchi, tout est bien fait. Et c'est souvent ça que les Coen, c'est vraiment tout est calculé. C'est rien laissé au hasard. Et ça fait plaisir.
Ça, par pure curiosité, tu l'as vu en VO ou en VF ?
En VF. Mais je pense qu'il aurait été mieux en VO celui-là.
La VF est incroyable, je suis désolé.
Ah ouais, ok. Non, mais moi je peux pro VF, mais après en général, quand ça chante, des fois c'est mieux en VO, donc je savais pas trop.
C'est pas objectif parce que je l'ai connu que comme ça, et vraiment je suis absolument amoureux de ce film, donc je le défendrai jusqu'à ma mort.
Les chansons sont traduites en VF ?
Non.
Ils chantent en VF ? Non, ils chantent en VO quand
même. Non, ils chantent en VO. Ah. Non, tu vas pas chanter de la country en VF.
Non, mais je sais pas, on sait jamais.
Et du coup, toi, Lucas, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Alors moi j'ai bien aimé aussi. Je suis rejoint à Melvin sur le fait qu'il y a 2-3 passages à vide où il se passe pas grand chose, mais globalement on voit quand même que le film est assez maîtrisé. Enfin, il y a pas trop de défauts.
Comme quasiment tous les films des frères Cohen en fait. Hein,
oui voilà. Enfin, on voit très bien qu'ils en sont pas à leur coup d'essai et que vraiment il y a de la réflexion derrière. C'est pas filmer une scène et puis oh, là on va faire ça machin. Bon, enfin, on voit très bien que c'est très bien ficelé et qu'ils ont une idée précise de ce qu'ils veulent faire avant de le filmer. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Bon après. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Où est-ce que vous avez trouvé les longueurs? C'est quand que ça me paraissait creux?
C'est pas une longueur précise, pour moi, c'est plus dans le ressenti global. En fait, sur le long terme, je dis, ouais, c'est un peu long quand même. Enfin, disons que je trouve qu'il se passe pas énormément de trucs.
Il y a des moments ouais, qui auraient pu être évitables, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même nécessaires pour la continuité narrative, dans le sens où vraiment, on ressent le road trip, quoi. On voit vraiment que ça dure un moment et que les mecs, ils passent vraiment un long moment à voyager.
Oui, c'est ça, on voit les jours qui dépassent, on les voit galérer, dormir partout,
ouais, voilà,
faire
c'est ça.
Plein de rencontres.
Alors après, moi je crois que entre le moment où ils rencontrent George Nelson et après, il y a bien un gros quart d'heure de vide, je crois, où ils voyagent pas mal, il me semble. Mais après, c'est vraiment pas gênant. On se le dit, une fois qu'on l'a vu, on se dit, ouais, il y a 2-3 trucs qui est un peu long, mais c'est vraiment pas méchant du tout quand on le voit, ça passe tout seul.
Mais après, pour le road movie, moi j'ai le même problème avec en fait, la plupart des films, c'est que je trouve le principe du road movie un peu long. Le fait d'être dans une voiture ou tout autre moyen de transport, ou même à pied, et de parler, ça, c'est souvent redondant, et j'aurai le même problème avec un film après. Mais ça se fait, même avec quasiment tous les road movies qui existent, à quelques exceptions, j'ai toujours un peu ce même problème. Je pense que c'est assez inhérent au genre.
Mais du coup, vous le recommanderiez quand même?
Ah oui, oui.
Oui, mais alors moi, du coup, j'adore la musique. Ouais, parce que bah, de base, je suis quelqu'un d'hyper ouvert musicalement. Et vraiment, j'aime tous les types de musique. Et j'ai trouvé John Turturro excellent. Mais il est trop fort, ce mec. Il est vraiment, même dans son rôle, il joue très bien. Il joue le mec un peu déjanté, mais qui essaye de paraître un peu normal. Et du coup, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et juste petite note, là, c'est la femme d'Ulysse à la fin. Le retournage de veste est incroyable à la fin. Et c'est fou. Genre, le perso est
ignoble.
Hein. Ah ouais,
c'est vraiment.
Ah mais t'es succès. Bon, mais allez, je reviens avec toi alors. Super.
C'est une femme détestable. Mais
ouais, clairement.
Bon, par contre, c'est très fictionnel hein, parce que ça se passe dans le Mississippi. Et je pense pas que le gars du Ku Klux Klan il se ferait sortir comme ça à cette époque-là. Hein.
Ouais, ouais. C'est vrai qu'ils ont fait un tube, ça y est.
Ça y est, c'est un tube. Oh bah du coup, oui, ça marche alors. Hein. Et puis les racistes, non, c'est pas ça. Non, c'est faux. Hein. Si dans la réalité, c'est eux qui se seraient fait tirer dessus.
Ouais, ouais, clairement.
Mais bon, on vous le recommande quand même très chaudement.
Ouais, ouais.
Oui, et puis c'est l'écriture des personnages est très bonne, mais inhérente aux frères Cohen, quoi.
Et du coup, après c'est toi, Melvin, du coup, quel film tu vas nous parler?
D'un film beaucoup moins connu, de Détour, sorti en 2016, réalisé par Christopher Smith, qui en doit à des films. Alors il y en a quelques-uns qui sont un peu connus, comme Black Death, ou même Triangle, mais c'est un réalisateur anglais qui fait quand même des films assez... pas spécialement connus, quoi, mais toujours avec des concepts assez particuliers. Et donc là, Détour, ça raconte l'histoire d'un garçon joué par Ty Sheridan qui rencontre qui a quelques problèmes familiaux et qui décide de partir. Et à un moment, l'occasion arrive de partir pour lui et le film va se diviser en deux. Il y a une partie où il part et une partie où il ne part pas, et on va suivre les deux parties du film simultanément. Et c'est le concept du film. Et qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ok, bah alors moi... J'ai bien aimé le film d'une manière globale, ça a été une belle surprise, il a vraiment un gros atout qui sauve le film. Mais alors j'ai trouvé Ty Sheridan, que j'ai adoré dans Ready Player One, bon qu'on voit pas trop au final parce qu'on le voit plus sous sa forme d'avatar, mais que j'ai adoré dans Ready Player One, je le trouve pas fou là.
Mais il a jamais été fou parce que dans X-Men, parce qu'il joue le rôle de Cyclope dans les nouveaux X-Men, ouais. Il est pas terrible non plus.
Ouais.
C'est vrai que là il se laisse... très souvent porté par les événements,
il y a pas trop
à part un moment dans un embranchement où
il niveau émotion il fait pas ressentir grand chose, j'ai trouvé, mais bon après c'est pas un gros défaut, mais quand même, ça m'a fait quand même 2-3 fois sortir un peu du récit. Je me suis dit, waouh, le mec, il arrive que des merdes, et vraiment, le mec réagit, il s'adapte, quoi. Mais j'ai eu le même problème avec, Tenet, par exemple. Le perso principal, il lui arrive des trucs de fou, il s'adapte en 2-2, il réagit, enfin, bon. Mais j'ai trouvé le concept vachement agréable, c'est un truc que j'avais jamais vu, il me semble, de suivre... Enfin, vraiment, c'est assez bien ficelé, ça aurait pu tomber dans l'incompréhensible et dans un peu n'importe quoi pour perdre facilement le spectateur, mais j'ai trouvé que c'était quand même bien ficelé. Du coup, j'ai bien aimé le scénario aussi. C'est ça que je trouve qui fait vraiment le vrai point fort du film, quoi. Parce que je trouve qu'en dehors, bon, les acteurs sont pas fous, mais du coup, le concept fait vraiment... ça sert vraiment de gros pilier au récit, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors il y a juste une scène, la scène où il se bagarre avec son beau-père et on voit le couteau voler en l'air comme ça là, et même la scène de la bagarre, bon, ça a pas été chorégraphié par les mecs qui ont fait j'ai pas trouvé ça hyper bien chorégraphié, quoi.
Mec, quand tu te bagarres, c'est jamais bien chorégraphié, non, hein.
D'accord, mais bon, la scène avec le couteau qui tourne en l'air et tout,
c'est symbolique, ok.
Ouais, mais ça m'a vraiment fait sortir.
C'est symbolique, ok.
Non, mais j'étais là, bon, ils ont pas fait ça quand même. Enfin, c'était pas mal jusqu'à maintenant, et les mecs ils font un plan, enfin, du coup, j'ai pas trop compris. Mais globalement, j'ai bien aimé le film. Je trouve qu'il manque un petit truc pour vraiment qu'il reste dans ma tête vraiment comme un film de road trip. Là, je trouve que, je sais, faudra voir dans le temps, mais je pense que c'est un film où il se passe trop peu de choses, j'ai trouvé, pour que ce soit vraiment ancré dans mon cerveau. Mais sinon, on passe quand même un bon moment, on s'embête pas, et j'aime bien le concept.
Alors, je peux préciser, c'est road trip parce que dans une des deux parties du film, il part avec un simili inconnu sur les routes.
Direction Las Vegas.
Voilà.
Et ben moi, du coup, moi aussi, j'ai été très agréablement surpris par ce film. Parce qu'au début, j'avais évidemment un peu peur, parce que
c'est un film de Melvin.
Alors déjà, évidemment, mais surtout parce que, comme bon, je connaissais pas ce film, et à chaque fois que je connais pas, je vais juste voir les bandes annonces au cas où. Et là, j'ai vu ce que me semblait me dire la bande annonce, et j'ai dit, oh là, on va partir dans un truc avec plusieurs réalités à suivre en même temps, ça va être la galère. Et en fait, non, ça va, c'est assez simple, on va dire, à suivre. La révélation finale est absolument folle. Enfin, c'est terrible, hein. C'est un film qui se finit extrêmement mal. Quand tu y réfléchis, en fait, qu'importe la décision qu'il a prise, c'est infernal, c'est horrible. Enfin, il y en a une qui est moins pire techniquement, mais...
Mais il a quand même fait une grosse connerie.
Il a quand même fait des dingueries, tu vois. Ouais. C'est,
Non.
Non, c'est juste, bah, techniquement, il y en a une où son beau-père il meurt pas, il me semble, c'est ça. Et du coup, c'est là, on va dire, la moins pire. Mais c'est un truc qui se finit mal dans tous les cas.
Ouais.
Et il y a un petit problème, c'est vrai que parfois. Il y a quelques facilités scénaristiques, hein, notamment vers la fin avec le coup du camion.
C'est vrai.
C'est un chouïa facile.
Oui, c'est vrai, ça. Je viens de m'en souvenir de la scène.
C'est un chouïa facile en mode.
Ça m'a pas choqué sur le coup, mais c'est vrai que bon. Après, le problème, c'est que j'ai trouvé dans l'environnement où se déroule la scène, il n'y a pas grand chose qui aurait pu éviter ça, quoi. À part un camion, le reste, c'est une station-service avec.
Mais après, passer le twist de tiers, ça devient un peu plus long et plus classique. C'est le défaut que j'ai avec le film.
Ça, parce qu'en fait, on suit la première timeline où donc il part avec cette espèce d'inconnu jusqu'à Las Vegas. Mais ensuite, toutes les autres timelines, il se passe des trucs différents au début. Mais au final, ils suivent quasiment le même chemin, visiblement. Et donc en fait, il y a ça aussi, on ne voit pas forcément très bien les gros changements. Tu vois, c'est-à-dire que... Le message, c'est presque bah, qu'importe la décision ultra importante, ça n'aurait pas changé grand-chose. Alors que normalement, si, quand même. Mais ça, c'est rien. Hein. Le film était vraiment très surprenant. Et l'acteur principal, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est Tom Hardy à 15 ans. Hein. C'est vraiment... c'est ça.
Non, ouais, sans le talent.
Mais là où vraiment je trouve que c'est un vrai atout du film, c'est que ça aurait pu être très casse-gueule comme concept au départ. Il y avait vraiment de quoi se planter, mais très très fort, et de faire un truc pas terrible. Est-ce qu'on peut parler d'effet papillon quand même au final? Parce que il y a quand même différentes réalités qui sont explorées au final, et je trouve que c'est assez casse-gueule. On l'a vu comme j'avais proposé à une dernière mission avec Projet Almana. Ça peut être un sujet qui est hyper casse-gueule et qui peut vraiment, on peut vraiment se perdre. Et j'ai trouvé que, alors, les 5 premières minutes où il y a les deux versions qui apparaissent, il y a de quoi être perdu, mais au final, si on prend le train en marche et qu'on suit, je trouve que ça accompagne vraiment bien le spectateur. Ça aurait pu vraiment me perdre et au final que je capte plus grand chose, mais je trouve ça assez bien ficelé et on voit vraiment. Alors, il y a des moments dans le film où il y a les deux versions à l'écran, et je trouve que c'est fait avec assez d'intelligence, et je trouve que c'est un vrai atout pour le film.
Par contre, à un moment, ils te laissent des éléments qui te semblent vachement importants vu comment la mise en scène les met en valeur, et au final, ça sert pas à grand chose. Bah, je pense juste aux taches de sang sur le sol, où on te dit ah, il en laisse une, ou aux taches de sang sur le lavabo, ah, il en laisse un petit peu.
Ouais, parce qu'au final, ça revient pas dessus trop. Ouais.
C'est ça, on te dit, ah tiens, qu'est-ce qui va se passer là-dessus, parce qu'effectivement, c'est important. Est-ce que le jardinier, à un moment, te fait croire qu'il va jouer un rôle, et en fait, non. Enfin, tu vois, c'est. Donc, c'est ça aussi qui est un peu frustrant, on va dire. Tu vois, c'est-à-dire que tu te dis, ah ouais, donc il y a vraiment une timeline assez différente, en mode, ah, si le jardinier était revenu à un moment, ou s'il avait fait ceci. Et au final, non. C'est
pas... Ouais, il a un rôle, mais si je le dis, ça spoil.
Après, ça me fait penser, peut-être qu'il y a eu des scènes coupées aussi. Peut-être qu'il
possible.
Y a eu, peut-être qu'au final ils avaient filmé ça, ils ont décidé de le garder parce que le plan était intéressant, mais peut-être qu'il y avait des scènes coupées qui revenaient sur les conséquences de laisser des tâches ou comme ça, et peut-être que ça a été coupé au montage par peur de perdre les gens.
Ah dommage ça, mais bon.
Mais peut-être, ça peut être une hypothèse, parce que c'est vrai que quand même ils ont, je passe notamment à la scène où ils nettoient le sol, vraiment ils insistent vraiment sur le fait qu'il a laissé une tâche sur le carrelage. Et alors, je me suis dit, s'ils n'avaient pas l'intention d'y revenir plus tard, à mon avis, ils n'auraient pas tant insisté que ça sur le plan. Donc bon, je ne sais pas. Peut-être que ça a été coupé au final.
Mais bon, on chipote, mais ça reste quand même un beau film assez bon. Hein.
Moi j'ai bien aimé.
C'est vraiment, il a le concept est cool, c'est globalement bien raconté. Voilà, donc c'est, si jamais vous le voyez, franchement, moi je vous le recommande perso.
Et de mémoire, il était sorti directement en DVD, je crois, l'époque. Bah, en France, en tout cas.
Ah oui, ok.
Dans les autres pays, je ne pense pas, mais en France, c'est très peu fait connaître.
C'est étonnant. Mais... Et bon, on va passer au dernier film. Du coup, Lucas, de quel film, toi, tu vas nous parler?
Alors, moi, je vais vous parler de Green Book. Donc, pour la petite histoire, c'est un... Donc, ça se passe dans les années 60 aux États-Unis. On suit le personnage de Tony Lip, qui est joué par Viggo Mortensen, qui est un videur dans un casino du Bronx et qui est engagé pour conduire et protéger le docteur Don Shirley, qui est un pianiste noir de renommée mondiale, qui est joué par Mahershala Ali. J'ai peur de mal le prononcer, mais je pense.
Non, je crois que c'est ça.
Bon, voilà. Et donc, il va faire une tournée de concert à travers les États-Unis, notamment dans le Sud. Et du coup, vu qu'on est en pleine ségrégation aux États-Unis, un videur italien qui conduit un noir pianiste, ça peut paraître un peu, ça peut déstabiliser les gens. Et du coup, on va suivre les aventures de Tony Lip et du docteur Don Shirley, qui vont faire face à des aventures. Et voilà. Donc, c'est avec Viggo Mortensen, comme j'ai dit. Donc, on lui doit le rôle de... Alors, c'est Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, c'est ça? Ok. Voilà, il a fait des films comme La Route, c'est quand même c'est un acteur assez bankable, donc c'est une tête d'affiche, quoi. Mahershala Ali, qui était donc qu'on a vu dans Moonlight, qui a été Moonlight a été oscarisé au meilleur film, je crois, non?
Oui, à la place de La La Land, rappelons-le.
Alors que j'ai pas vu Moonlight, mais on le voit aussi, il a un rôle un peu important dans Alita Battle Angel aussi, que j'ai bien aimé. Les figures de l'ombre, on le voit aussi dans un rôle assez secondaire. Et dans la saga Hunger Games, alors je l'ai vu, mais honnêtement, je sais plus.
Je me rappelle plus du tout, je sais pas qui était dedans.
Ouais, mais dans les trois en plus, je crois. Quatre, du coup.
C'est bon. Génial, je n'ai aucune ref.
Mais bon, voilà. Donc, et qu'on verra dans le futur dans Blade. Dans le MCU, si ça sort un jour. Y a aussi Linda Cardellini, donc, qui joue la femme de Tony Lip, qu'on voit dans Le Fondateur, Michael Keaton, dans Avengers très brièvement, dans le 2, et dans Dead to Me, que je connais pas, mais bon, c'est une série, apparemment c'est notable. Et c'est réalisé par Peter Farrelly, c'était son second long métrage. Et voilà, donc qu'est-ce que vous allez penser de Green Book ?
Ben, 2h10, c'est long. J'ai trouvé le film très très long, je me suis sacrément ennuyé devant. Parce que je le trouve pas si intéressant que ça en fait. Le propos sur papier, je le trouve intéressant, mais je trouve que ça fait pas un film de 2h10. Et c'est le souci que je vais avoir, je trouve que ça se répète beaucoup trop. C'est des scènes, en fait j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes, et elles veulent toujours dire la même chose, et que ça fait, tiens, regarde. Regarde ce que je veux te dire, et ça va être mon gros souci avec le film. C'est super bien mis en scène, la musique est bonne, les acteurs sont très très bons, mais le scénar passe pas pour moi. Ça, c'est pas mon genre.
Oh, l'inspiration est incroyable.
Ouais, c'est... Bon, je vais d'abord passer sur ce que j'ai bien aimé, hein, c'est sûr, l'image, la photographie absolument très belle, hein, c'est vraiment, ce film est esthétiquement très beau, la musique aussi elle tue, mais bon c'est soit du classique, soit du jazz, donc c'est quasiment que du bon, mais on s'ennuie quoi, je dirais même plus qu'on s'emmerde, enfin c'est vraiment, Ça fait partie de ces films qui construisent l'espèce un peu de roman, une espèce de roman national américain qui veut la bonne entente. Voilà, bah oui, moi je suis italien et je fais des vannes racistes. À la fin, je suis plus raciste. Bah, moi, je suis noir, je veux réussir.
Non, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça.
Tu trouves
que c'est nuancé ? Moi, j'ai pas du tout vu ces nuances-là. C'est comme ça, donc on s'ennuie quoi, on s'ennuie, et puis le message, si tu as vu et revu...
Ça fait très film à Oscar en fait.
Oui voilà, c'est genre, oui voilà, on va faire un film sur la bonne entente entre les races dans l'Amérique du sudiste et raciste et ségrégationniste pour montrer que tout est possible et vive l'espoir, vive l'amour.
Non, ça je suis d'accord. Ouais.
C'est oh là là, s'il vous plaît quoi.
Ça fait vrai message pour les Oscars, mais alors moi je vais passer d'abord sur les points où je vous rejoins. Alors on va dire que c'est vrai que ça fait très film. J'ai pas envie de dire non, je vais pas employer des termes que je comprends pas, sinon je vais me viander. Mais ça fait ça, on va dire que ça
bien joué,
ça brosse les Oscars dans le sens du poil, on va dire que vraiment bon ça manque d'engagement dans le message, ou le message de base comme a dit Melvin est très bien, mais c'est vrai que ça manque un peu de personnalité.
C'est déjà vu quoi.
Là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que moi je trouve que ça tombe pas dans les caricatures quand même. Parce que le message de au départ il est raciste, à la fin il est pas raciste, je trouve que c'est plus nuancé. Alors je m'explique.
Mais on est là pour ça.
Hein. On voit le personnage de Tony Lip au départ, donc qui est joué par Viggo Mortensen, qui est un peu réticent à l'idée d'accepter. Alors pour l'histoire, du coup, c'est le docteur Don Shirley qui lui offre un job pour le conduire à travers les États-Unis, et du coup, bon, il sait pas trop. Il s'y présente quand même parce que ça, il me semble. Alors je l'ai pas revu pour l'émission, mais je l'ai quand même bien en tête. Il me semble que c'est quand même sa femme qui lui dit bon, tu devrais y aller. Mais lui il hésite parce que c'est quand même un très long voyage et il a pas trop envie de quitter sa famille. Mais il fait. Alors ça le déstabilise un peu au départ que le personnage de Mahershala Ali soit noir. Mais moi je le ressens comme ça. Pour moi le personnage de Tony Lip n'est pas raciste au départ. En fait, il vit dans un environnement d'Italien en plein milieu des États-Unis. Donc, il vit dans un environnement qui est quand même raciste, on va le dire. Enfin, sa famille.
Ça, oui.
Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus racistes par... bon, alors, c'est un peu comme tout le monde, mais c'est vraiment par pure ignorance. C'est-à-dire qu'en gros, quand Tony Lip découvre le personnage de Don Shirley, au final, il fait abstraction très vite que ce personnage-là est noir. Et je trouve qu'à la fin, c'est beaucoup plus nuancé que vraiment, au départ il est raciste, à la fin il n'est pas raciste. Non, c'est juste qu'il a vraiment appris à découvrir quelqu'un, à dépasser sa couleur de peau, et juste vraiment, il n'était pas profondément raciste au départ, mais c'est juste quelqu'un qui manquait d'informations et juste il manquait des choses à découvrir.
Mais je trouve ça quand même un peu pauvre comme truc, quoi. Ouais, il a appris à connaître quelqu'un, super, donc il est noir, c'est pas grave. C'est juste ça le truc.
Puis certes, d'accord, tu dis oui, il est pas raciste comme les blancs du sud profond montrés dans le film. Il dit, quoi, vous les noirs, vous aimez bien le poulet frit, non? Enfin, je sais pas, non. Ouais.
Non, mais voilà, en fait, il est plein d'a priori, il est plein de clichés parce que c'est l'environnement dans lequel il est arrivé. Ou alors il me semble qu'il est, je sais pas si c'est un immigré ou s'il est né aux États-Unis, je sais pas si c'est dit dans le film, mais c'est l'environnement dans lequel il vit, qui est cultivé de clichés et qui au final, une fois qu'il est dépourvu de cet environnement-là, au début il est rempli de clichés, mais au final je vois plus comme quelqu'un qui se débarrasse de ses a priori que comme quelqu'un qui ne devient pas raciste, parce qu'au final quand on est profondément raciste, à mon avis on ne change pas, mais voilà, je vois plus quelqu'un comme qui se débarrasse vraiment de ses clichés et de ses a priori que comme quelqu'un qui se guérit du racisme entre guillemets. C'est ça que j'ai trouvé un peu plus intéressant, c'est que c'est, enfin, pour moi ça tombe pas dans les caricatures. Ensuite, je trouve que les deux personnages principaux jouent très bien. Enfin,
les acteurs en général, tout le casting, ouais, est bon.
Le Joe me parle vachement. Enfin, je sais pas. En fait, je l'ai découvert au lycée et depuis, je l'ai regardé 2-3 fois. Et pour moi, c'est vraiment un film qui me parle. Alors, c'est vrai que 2h10. Alors, dans mes souvenirs, c'était pas très long, mais si vous me le dites les deux, c'est que vraiment, il y a des choses quand même qui étaient évitables. Un autre point évitable, le placement de produit pour KFC est dégueulasse.
Putain, ils aiment le poulet frit.
Non, mais en vrai, le placement de produit est trop violent, quoi. Genre, ils en parlent pendant 10 putains de minutes.
Il faut bien le financer, ce film à Oscar. Va le trouver, l'argent, toi.
Non, mais voilà, après, ouais, je trouve que c'est pas un film qui tombe dans la morale, c'est juste un film qui se contente de filmer une relation entre deux hommes qui va au final
et à la fin ils sont les meilleurs amis du monde,
une petite bromance.
Après, c'est une histoire vraie, hein. Donc au final c'est tiré d'une histoire vraie, donc
oui, mais tu te doutes que c'est quand même extrêmement romancé.
Et puis même,
je me doute bien,
ça fait histoire vraie, mais histoire vraie anecdotique, je trouve.
Ouais,
j'ai l'impression que c'est deux mecs qui sont un peu perdus et que ça, tu sais pas trop d'où ça sort, quoi. C'est pas une histoire intéressante, je trouve.
Oui, c'est ça, c'est genre un truc qui s'est passé sur un mois dans les années 60, et à la fin, ils vont te dire l'histoire qui a bouleversé l'histoire des États-Unis.
Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, moi, le récit, ou alors c'est les acteurs. Après, j'ai beaucoup d'affection pour le personnage de Don Cheadle, que j'aime beaucoup, beaucoup dans le film. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression de faire un peu abstraction du reste au final, parce que je me concentre vraiment sur ça. Pour moi, c'est vraiment. Enfin, pour moi, ça fait partie des très bons films que j'ai pu voir. Après, je comprends que ça vous plaise beaucoup moins. Mais bon, voilà, moi, ça me tenait à cœur de le présenter et je l'ai trouvé vraiment cool.
Encore une fois, c'est pas qu'on n'aime pas, c'est juste qu'on n'est pas le public. C'est très différent.
Après, ça peut arriver de pas aimer. Hein. Alors, ça arrive très bien. Il y a des films qu'on aime, des films qu'on n'aime pas. Après, je sais même pas si ça a eu un Oscar au final. Oscar,
si, du meilleur film.
Ouais. Mais après, c'est vrai que ça fait message très formaté pour les Oscars, donc bon, évidemment, c'est normal que ça passe. Mais bon, pour ceux qui veulent découvrir un film sympa qui traite de ces sujets-là avec beaucoup de légèreté, parce qu'au final, ça prend pas vraiment d'engagement, allez-y.
Bon, voilà, hein, donc on vient de vous recommander trois films que vous pouvez voir, hein, franchement, mais là, franchement, c'est de la bonne. Hein, c'est vraiment. Vous pouvez avoir confiance en ça.
Parce que d'habitude, pas trop, apparemment.
Si, bon, cette fois-ci, ça va.
Si, si, vous pouvez évidemment toujours avoir confiance en nous, hein, sauf pour Projet Almanac, bien sûr. Mais c'est
pas si mal.
Mais là, vraiment, non, mais c'est-à-dire que pour une fois, il y a vraiment un consensus où tout le monde aime bien les films. Ah bah non, merde, qu'est-ce que je raconte? Non. Mais bon, ça me semble bien, hein. Bon, normalement, on est censé vous proposer. Un petit jeu à ce moment-là, mais après consultation avec toute l'équipe technique, à savoir juste nous trois, on s'est dit qu'on avait fait un petit peu le tour du sujet des jeux, des jeux de fin d'émission.
On manque de concept, quoi.
Voilà. Et on risque surtout de très vite retourner en boucle. Tourner en boucle. C'est ça?
Oui. Oui, c'est ça le mot.
Tourner en rond, bref. Et du coup, cette fois-ci, il n'y en aura pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus jamais, hein. C'est quand on sera inspiré ou quand on sent que ça pourrait faire un bon truc.
Quand le thème s'y accorde.
Quand le thème s'y accorde aussi, voilà. On pourra toujours vous en refaire un. Mais du coup, maintenant, on va aussi placer une nouvelle petite section en fin d'émission qui est complètement à part, où on va éventuellement vous recommander les films qu'on a vus et qui n'ont rien à voir avec l'émission et qu'on aimerait bien vous partager, tout simplement. Sans non plus entrer trop dans les détails, mais juste assez pour vous donner envie de les voir.
Voilà.
Voilà. Est-ce que... qui veut commencer, tiens?
Allez.
Allez, Melvin, on t'écoute.
On va commencer par du 2022 et du cinéma avec X, donc le film de Ty West qui est sorti il y a très très longtemps aux États-Unis mais qui vient à peine de sortir en France, parce que la France à 24 et l'horreur, c'est pas ça. Et donc il raconte l'histoire d'une troupe de tournage de films porno qui va s'isoler dans une ferme au fin fond de l'Amérique. Et ça va dans les années 70 de mémoire, et ça va un peu mal tourner, et ça va se transformer en slasher. Et donc, l'hommage est très bien fait, les acteurs sont top, le slasher fonctionne à fond, et pour une fois, c'est pas forcément original, même si ça est quand même un peu sur le côté pornographique, en fait. Ça aborde le sujet très bien, et ben, ça se laisse très bien voir, c'est très bien rythmé, vrai coup de cœur de l'année pour moi. Mais j'encourage à aller le voir, surtout que son préquel est déjà sorti aux États-Unis et que la suite devra arriver sous peu, on espère une sortie en France.
Okay, bah moi je vais vous en recommander deux. D'abord je vais vous recommander C'est arrivé près de chez vous, que j'ai vu très récemment.
Je voulais voir au ciné, il est passé, j'ai pas pu.
Oui, bah justement moi j'ai pu. Et qui est vraiment très étonnant. C'est pas le film de l'année, hein, mais c'est...
Ça sort les sentiers battus.
Mais ça, waouh, c'est sûr que ça sort... ouais. C'est-à-dire c'est un faux documentaire sur un tueur incarné par Benoît Poulvorde. Il y a un côté très voyeuriste, d'ailleurs.
Le pitch, quoi.
C'est ça. Bah, c'est ça, hein. C'est,
ouais, c'est vrai.
Et en fait, les membres de l'équipe technique vont se retrouver de plus en plus impliqués dans les méfaits du tueur, hein. Ils vont jusqu'à buter un gosse. Il y a une scène absolument atroce de viol collectif. Enfin,
Ça a l'air sympa.
C'est très cru. Au début, tu te dis ah ouais, ça va être de l'humour noir, tout ça, et au final, ça plonge très rapidement dans l'enfer, quoi. Surtout que tout est filmé. C'est un film à vraiment micro budget, purement belge. Donc c'est vraiment on fait avec les moyens du bord, et ça rend le truc encore plus violent.
Ouais, c'est vrai.
Donc vraiment, je vous recommande quand même, parce que c'est un film à voir, et puis bah il y a un Benoît Poulvorde quand même en pleine forme, hein.
Puis et Benoît Poulvorde qui joue une tueur en série, bordel.
Ça change.
Est-ce qu'on parlera pas de son meilleur rôle?
Je ne sais pas, je connais pas très bien la filmographie de Poulvorde.
Astérix aux Jeux Olympiques.
Oh oui, c'est vrai.
L'autre film que j'aimerais vous recommander, ça s'appelle Tueur Né. Là aussi, c'est... c'est pas tellement un road trip, mais en gros, on va suivre la cavale de tueurs. Qui foutent juste le zbeul un peu partout aux États-Unis et qui vont se construire une fanbase absolument incroyable. Et ce film, je peux pas en parler plus parce que il faut le voir pour le croire. C'est tellement space, c'est tellement particulier dans la manière dont il raconte les choses, dont c'est mis en scène, etc. Là aussi, c'est une expérience à avoir. Donc si, franchement, j'ai moins de trucs à dire que sur C'est arrivé près de chez vous. Mais parce que je peux pas en dire plus, parce que c'est absolument inexplicable. Donc,
c'est celui avec Woody Harrelson?
Je crois.
Okay.
L'affiche, vous la connaissez tous, il y a un chauve avec des lunettes rondes rouges qui tient un flingue.
Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Mais vraiment, je vous le recommande juste par pure curiosité et pour vous dire, waouh, des fois, ce genre de film existe, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est Tueur Né et C'est arrivé près de chez vous. Et toi, Lucas?
Alors moi, c'est Projet Almanach. Non, je déconne.
Elle est bonne.
Non, alors moi j'ai pas vu grand chose honnêtement là ces derniers temps.
À part Projet Almanach, deux trois fois.
Ouais, deux trois fois avant d'aller me coucher, c'est quand même important. Non, j'ai déjà parlé de Sin City la dernière fois, mais j'ai redécouvert il y a pas longtemps. J'avais vu qu'une saison, donc c'est une série, mais c'est American Horror Story. Pour l'instant, alors j'ai vu qu'une saison. Enfin, j'avais vu qu'une saison la première fois et là je la redécouvre où j'ai découvert deux autres saisons que j'avais pas vues. Donc c'est les deux premières saisons, celle avec la maison et l'autre avec l'asile. C'est vachement bien. Très franchement, ça fait pas mal flipper par moments. C'est même très très dérangeant dans d'autres moments. Alors, faut savoir que c'est à base d'acteurs récurrents, donc c'est vraiment dans différentes saisons, c'est quasi toujours les mêmes acteurs qui jouent différents rôles. Donc, ça permet aussi de voir les talents des acteurs qui, franchement, jouent vachement bien. Et donc pour l'instant j'ai vu que les deux premières saisons, mais c'est quand même vraiment une série très très cool à découvrir. Donc juste pour le mini pitch, c'est vraiment c'est différentes saisons dans différents endroits. Donc par exemple dans les deux premières c'est dans une maison, dans la deuxième c'est dans un asile où il se passe tout un genre de truc un peu paranormal ou avec des monstres ou des tueurs psychopathes. Donc c'est une série d'horreur. Mais c'est vraiment vachement sympa pour ceux qui veulent le découvrir. On peut pas trop le pitcher parce que c'est vraiment une série qui est vraiment très diverse. Donc si vous aimez les séries d'horreur, n'hésitez pas, mais c'est ultra ultra connu. Et en second, c'est un film de Mel Gibson, c'est Tu ne tueras point, avec Andrew Garfield. Donc j'ai découvert ça il y a pas longtemps, je l'avais acheté en Blu-ray, mais j'attendais encore de le regarder. Et c'est vraiment un film de guerre très très bouleversant, c'est vraiment un vrai film de guerre, un beau film de guerre. Donc si vous aimez, alors c'est un peu différent de ce qu'on peut trouver, mais pour le pitch c'est un soldat chrétien qui est envoyé à la guerre et qui ne veut tuer personne par rapport à sa religion, et qui du coup est autorisé à combattre sans ses armes, et qui se met au lieu à tuer des gens à sauver ses camarades ses camarades soldats. Et donc c'est quand même vraiment un très beau film qui m'a beaucoup surpris, donc si jamais, je vous encourage à le regarder.
En gros, c'est un gars, il joue Ange dans Overwatch.
Non, mais ouais, voilà, franchement, c'est vraiment cool. C'est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est 2019 ou quelque chose comme ça.
J'aurais dit 18, mais ça doit être 16 ans.
C'est assez récent et c'est vraiment cool, et ça montre l'étendue du talent d'Andrew Garfield, qui a fait autre chose que Spider-Man, pour ceux que ça surprendrait. Mais voilà, donc n'hésitez pas.
Et j'aimerais citer un deuxième film aussi, je vais rester dans l'horreur avec The Mist, adapté de Stephen King, que j'ai toujours pas vu, et que j'ai enfin vu, c'est très bien mis en scène aussi. L'histoire, c'est qu'il y a une brume qui arrive, avec des monstres dedans, et une partie de la... Ça se passe dans le Maine, comme toujours avec Stephen King, et une partie de la population se retrouve enfermée dans un supermarché, et donc on suit leur survie, et c'est très bien fait, on voit pas le temps passer, et la fin est bouleversante. Voilà, je ne dirai pas plus.
Ok, bon bah ça me semble pas mal. On espère que ces recommandations porteront leurs fruits.
Donc, c'est mieux que Green Book.
Oh la vache. Donc nous vous remercions de nous avoir écoutés. Moi je trouvais que c'était une bonne émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur le réseau social Instagram à l'hashtag de Temciné. Et puis, voilà, nous vous souhaitons une bonne fin de journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez cette émission.
Une
bonne nuit, un bon petit-déj. Et puis...
On va en verso.
C'est ça. Et puis, on vous dit à la prochaine. Allez, salut.
Salut tout le monde.
Salut à tous.
Chers amis, Milady, que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack. Bow.